Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, ben, nous allons cette semaine voir un livre de Martine Janicot de Maison qui a été édité par la Geste en 2004 et qui s'intitule « Les rebelles du Puy-Saint-Front » et avec un sous-titre « Boson, seigneur du Périgord ». Alors, concernant l'auteur, Martine Janicot de Maison est née à Limoges. Un intense parcours professionnel lui a permis de sillonner la France. De ses pérégrinations, elle a engrangé des images, des croyances, des parfums, des anecdotes qui émaillent ses différents livres. Une imagination hors du commun, un sens aigu de l'observation, elle a le talent de savoir croiser la vie de ses personnages et des faits et des lieux réels. On va voir ça un peu sur le Périgord. Alors, en quatrième de couverture, toujours, il y a un petit explicatif, comme la tapisserie de Bagneux qui déroule une fresque historique sous nos yeux. Martine Janicot de Maison vous convie à partager la vie tumultueuse de ses ancêtres. L'aventure n'est jamais loin dans ses romans. Alors, par exemple, chez Iroquois ou au cœur des batailles du XVe siècle lorsque tonnaient les canons de l'artillerie royale. Alors, dans ce livre, il y a bien sûr une préface. Une préface dont je vais vous donner lecture. Une nouvelle fois avec ce livre, Martine Janicot de Maison montre ses talents de conteuse. Après avoir évoqué son parent Limougeau, pionnier de l'aviation d'un escale à Varès, alors c'est un livre qui a été publié par la Geste en 2022, elle s'intéresse cette fois de manière romanesque à sa lignée, réelle, relignée, réelle ou imaginaire, et au lecteur bien sûr de le deviner. Donc il y a beaucoup d'histoires, voilà, on va voir ça. Alors, non, comme le faisait le grand médiéviste Jacques Duby, de façon forcément un peu sèche et scientifique, mais comme un écrivain sensible et inspiré, elle illustre ici, en prenant le prétexte de l'arbre généalogique, ce qu'écrivait Hervé Bazin, la famille, seul endroit où le sang de chacun circule dans les autres. Et il est bien question de famille dans cet ouvrage qui brosse le portrait de personnages attachants ou intrigants dont la vie et les aventures constituent à chaque fois comme une captivante nouvelle. Et il y en a quelques-unes. Alors Martine Janicot de Maison cite fort justement Jean de la Bruyère en exergue de son livre « Tout homme descend à la fois d'un roi et d'un pendu ». C'est bien ce qu'elle nous prouve ici avec talent de Jacques Ducrot, domestique et cantonnier du côté de Chapsac, en Haute-Vienne, au XIXe siècle, un ancêtre bien plus prestigieux, bâtard et conquérant, vainqueur à Hastings en 1066, devenu roi d'Angleterre. L'aventure n'est jamais loin dans les romans de l'auteur, par exemple chez Iroquois ou au cœur des batailles du XVe siècle, lorsque résonnaient les canons de l'artillerie royale. Et pas de complaisance lorsqu'il s'agit de montrer les agissements de l'horrible René de Loménie, prédateur sexuel au temps d'Henri IV. D'ailleurs, quelques portraits de femmes victimes ou rêvant d'émancipation amoureuse, parfois de troubadours, mères, émaillent ce récit qui parfois se nourrit aussi de fantastique. Je ne peux que vous inviter à parcourir cette généalogie plaisante et surprenante, prétexte pour Martine, pour raconter des histoires et l'histoire, et une fois de plus, pour vous accompagner de son imagination inspirée. Voilà. Alors, cet avant-propos est signé Laurent Bordelas. Bordelas, si vous préférez, mais nous, on prononce, bien sûr, toutes les lettres. Alors, il y a un avant-propos à tout cela. Il y a un avant-propos, ils sont devenus des étoiles. Un soir d'été, bercé par des notes discordantes, des grillages scrutent le ciel et les étoiles s'allument une à une. Je reconnais la faiblesse et la timidité de l'une d'entre elles et correspond à notre cher Jacques. Puis une autre qui s'affirme au fait d'un sapin immobile, fier, un tantinet agressive. Oui, il s'agit certainement du seigneur de Lambaudie, René. Puis, en me tournant le cou pour l'admirer, une énorme étoile brille au sud, implacable de clarté, sereine, lointaine, inaccessible. Sans douter, une seconde, je souris à mon ancêtre, Guillaume. Les nombreux documents éparpillés sur la table m'invitent au découragement, un découragement légitime. Comment retrouver à travers ces lignes, parfois ternies, un lien solide, un lien qui va perdurer au-delà des années, au-delà des siècles et me propulser dans un millénaire inconnu. J'ai le vertige à l'énoncé de mon cousin, Sans en être consciente depuis ma naissance, je suis téléguidé, manipulé. Lui, l'ancêtre, m'a lancé un défi. Saurais-je le relever? Il y a tellement de témoignages accouchés sur le papier qu'il m'a pris la main pour être son vecteur. Et c'est surtout le cœur qui va conduire ma quête. J'ignorais jusqu'à hier toute qu'une infinie partie de mes gènes remontait jusqu'à lui. Dans mon sang pulse l'histoire avec un grand H. Modestement, je vais remonter le temps à travers la branche paternelle qui ancre solidement ses racines sur les terres de Haute-Vienne, mais aussi outre-Manche. Et bien sûr, j'ajouterai le Périgord, comme on va le voir dans un instant. Elle a dû l'oublier. Alors, je vous invite à accompagner ceux qui ont construit cette fabuleuse épopée, chacun à sa propre histoire, des moments de misère pour les premiers clichés de la moitié du 19e siècle, des époques plus exaltantes du siècle des Lumières, des découvertes fortuites au fur et à mesure de l'ascension vers le passé. Passé nébuleux qui se laisse apprivoiser par la grâce, par l'innocence. Les images viennent embraser le texte, des paysages se calquent autour des aïeux, et je vous promets du rêve qui fut pourtant le quotidien de mes précieux parents. Comme autant de marches à gravir, j'ai dû me séparer de certaines familles pour mettre en lumière sept personnages. J'ai passé des semaines à aller sur site, à trier, à raturer, éliminer, à découvrir, et je fais le bon choix. J'ai confiance en mon guide, je lui oublie les yeux fermés. Voilà. Bon, ça, c'était l'avant-propos. Alors, on va voir un peu la lecture de ces familles et ce qui va en devenir. Alors, on va se replonger, alors là, quand même, donc, dans Périgord, et au XVe siècle. Alors, à août 1435, les déliés de la plume sont presque illisibles de nos jours. À la cathédrale Saint-Froid est inscrite pour l'éternité l'union entre Boson, qu'on a vu en sous-titre de ce livre, entre Boson de Barrière et Marie de Fayol. Il y avait une foule tout au long du cortège, même les plus rétifs s'étaient amassés autour de la cathédrale. Ils attachaient certainement plus d'importance à la venue du duc d'Aquitaine qu'à la jeune mariée. L'air vibrant de son discordant des cloches, le bourdon s'envolait sous le ciel bleu cobalt. On entendit arriver le convoi de loin, les premiers cavaliers escortant la litière où avaient pris place Boson et Marie. Alors, sur le parvis, l'évêque était en tenue d'apparat, épaulé par le duc, et les gens attendaient avec une certaine fébrilité. La foule était canalisée tant bien que mal par des gardes en armes. Enfin, elle apparut, descendant avec grâce la marche de la litière, tétanisée par l'accueil chaleureux réservé aux futurs mariés. Elle chercha le regard aimé et s'éperdut. Les yeux embués, elle murmura. C'est vraiment trop, on dirait qu'ils attendent de voir personne. Ils sont éblouis par vous, mamie. Voilà, bon, c'était les paroles des futurs mariés. Alors, on va poursuivre un peu la lecture de ce chapitre. Sa longue robe, en lin écru, flottait sous la brise. Le col et les manchons étaient ourlés de dentelles fines. Une couronne en perles d'ambre saignait sa longue chevelure qui cascadait jusqu'aux hanches. Elle baisa l'anneau de l'évêque sans ostentation, un geste naturel et sincère. Les deux silhouettes avancèrent sous la nef, donc nous sommes à Périgueux, bien sûr, à la cathédrale Saint-Front. Alors, la main de Boson posée sur celle de Marie à hauteur du cœur, agenouillée côte à côte sur le prie-dieu, ils regardaient droit devant eux, et nombreux ecclésiastiques, ils regardaient dans la même direction, celle de leur avenir. Un puissant rayon de soleil traversa l'édifice en biais pour frapper un vitrail. Alors, cet arc-en-ciel surnaturel illumina les joues de la promise. Aveuglée un court instant, elle se tourna vers Boson, lui ne broncha pas le visage grave, fixant la croix ou le Christ, souffrant. Puis ils sondaient de ses yeux éteints, puis une fois les promesses échangées, le seigneur de Villamblard glissa un fin anneau au doigt tremblant de sa fiancée, de son épouse maintenant, la jeune Marie de Fayol, devenait Marie de Barrière. Et évidemment, dans tous ces textes, on va retrouver les familles qui existent toujours d'ailleurs. Les Fayol, je vous rappelle très bien, du marquis de Faroy, de Fayol, avec qui, je crois, le soir, on avait fait un excellent dîner. Alors, je vais poursuivre la lecture. Alors, pour boucler les six lieux qui séparaient Périgueux de Villamblard, la troupe partit par le chemin longeant en lice. Marie découvrait les terres fertiles du Périgord, ces arbres généreux qui tamisaient cette trop forte lumière d'été, ces vallonnements adoucis, perdus par la rivière, les noyers qu'elle ne connaissait pas en Limousin. Boson lui étreignit les mains pour lui donner donnant force et force au détail sur la campagne. Il la regardait de si près qu'une envie de la prendre dans ses bras le taraudait. Mais il ne le fait pas. Ce n'était pas dans les convenances. Et oui, quand même pas brûler les étapes. Alors maintenant, elle était à ses côtés pour la vie. Il n'aurait plus besoin de rêver. Son rêve s'était fait cher. Le petit peuple de Villamblard les accompagna jusqu'aux douves taillées dans le roc. Marie leur souriait, les saluait et les trouvait guère différents des gens de chez elle. Elle est limousine, c'est quand même pas très vrai. Son sourire figea quand elle se trouva à pied d'édifice, sa bouche arrondie, sans sur aucun son, terrassée par la taille de la forteresse, à tour ronde l'impressionnée, elle souffla à beaux hommes. C'est ici que nous allons vivre. Oui, il n'a pas fière allure, le château de la famille de Barrière. Ben, il est tellement grand, il me fait un peu peur. Je suis la mamie, toujours pour vous défendre et surtout pour vous aimer. Voilà quand même de bonnes paroles du mari. Ils répétèrent le même geste à la cathédrale, main suspendue au-dessus de l'allée, légère et unie, le couple disparut derrière les murs épais de leur demeure. Alors, bien sûr, il va y avoir la noce, alors une musique lancinante brisa l'inquiétude du lieu. Le jour s'effilochait dans le bourg de Villamblard, ce du château convié au banquet des épousailles dans la salle de réception. Une troupe de troubadours déclamait des poèmes, jouait des instruments avant et se dissipait sur des danses locales. Marie, étourdie par les agapes, regardait le spectacle absente. Les candélabres accrochés au mur avaient été allumés. Les servantes se démenaient autour de l'immense table dressée au milieu de la salle. Bientôt, l'air embauma de mains de choix. Alors, il y a le riz au safran, les roulés de bourre, le jarret de porc, le gratin de navet, les gaufrettes, les beignets de pommes, la compote, les darioles, les figues, etc. De quoi faire un bon repas. Alors les vins démêlèrent bien des langues, les hommes, y compris les ecclésiastiques, se versaient de grandes rasades, de clairet, le vin de rose, ce vin de sauge, d'hydromel, aux épices. Oui, le vin fallait bien le conserver. Alors les voix montaient en puissance, les domestiques se bousculaient, les jardins brisés, changeaient le sol, menestrel s'était tu, s'empiffra des plats les plus raffinés. La nuit s'était emparée des douves pour absorber le château tout entier. Alors, vu des prix voisins, la forteresse émergeait de cette complète obscurité par la magie de ses croisées largement éclairées. Plusieurs groupes de silhouettes mouvantes traversaient la salle. Cette nuit sans lune où les griots tentaient de couvrir les rumeurs de la noce, angoissaient la nouvelle dame de Villamblard. Un rapace hurla à travers la vallée, un chien jappa sans force dans le bourg tout proche. Voilà. Alors, on va arrêter là cette lecture. Il va quand même arriver quelques malheurs aux sœurs de Boson de Barrière. Alors voilà ce qu'on nous dit, génération 18, Boson de Barrière, de Lure, seigneur de Longa, de Lagu et de Villamblard. Alors, il est né en 1395 à Villamblard, en Dordogne évidemment, décédé en 1448 à Villamblard. Alors, fils d'Archambault de Barrière et de Marie-Sanche de Pommiers, vers 1375, voilà, ce qui nous plonge un peu quand même là, dans le passé. Alors, Boson, avant quelques périples, Boson et Marie auront un enfant. Alors, une fille, Anne, quoique Anne était un prénom également masculin. Alors, Anne, vers 1436, à Périgueux, et donc décédée vraisemblablement vers 1471. Alors, il y aura les époux de Marie de Fayol, son mari va être victime, comment je pourrais dire, des grandes compagnies. Alors, en 1434, donc, elle va épouser Louis de Pérusse-Descartes, en 1435 avec Boson de Barrière de Lure, et puis en 1448 avec Bertrand II de Lure. Donc, comme je disais, on va retrouver quand même les grandes familles, qu'elles soient périgourdines ou limousines. Voilà. Ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous représenter une nouvelle fois mes voeux pour 2025 et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.